Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour ceux qui ont leur Bible dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Matthieu 7, verset 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette parabole, c'est ce qu'on appelle la parabole de deux maisons. Cette parabole est située juste à la fin des enseignements de Jésus sur la montagne, qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Jésus, après avoir enseigné la foule, va terminer son enseignement par cette parabole. C'est en quelque sorte la conclusion de tout son enseignement. Et le sermon sur la montagne commence, et vraiment au début, justement, du ministère de Jésus. C'est comme si, en quelque sorte, le Seigneur introduit son ministère par l'enseignement. C'est comme si il donnait, en quelque sorte, l'introduction de ce qu'il va venir accomplir. Il y a énormément d'enseignements dans le sermon sur la montagne, et en fait, le Seigneur introduit son ministère, et après, on voit qu'il va mettre en pratique tout ce qu'il a enseigné à la fin, à ce moment-là. Sa vie ne va plus être que des manifestations de ce qu'il a prononcé comme parole, les enseignements qu'il a donnés. Et pendant ces 3 années de ministère, le Seigneur va accomplir en acte tout ce qu'il a dit en parole. Et en terminant ses enseignements par cette parabole, Jésus veut attirer notre attention. Il veut attirer l'attention de tout auditeur qui reçoit son enseignement. Et en quelque sorte, il veut dire, il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit pas de venir dire « Seigneur, Seigneur ». À travers la parabole de deux maisons, le Seigneur veut montrer que si l'écoute est importante, la mise en action Donc la pratique l'est d'autant plus. D'autant plus. Si les paroles entendues ne sont pas mises en action, cela veut dire que nous courons un grand risque. Il y a un grand risque. Les deux maisons ici symbolisent nos vies. Nous sommes appelés à évoluer, à grandir dans la connaissance et dans la communion avec notre Dieu. Et les éléments qui permettent cette croissance sont justement les enseignements de la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, elle est différente de tous les autres livres, de toutes les lectures que nous pouvons faire. Ça n'a rien à voir. Si je lis le journal d'aujourd'hui, oui, je prends information de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cela va-t-il m'apporter? Oui, je sais qu'il s'est passé telle chose. Si je lis un roman, et je vais lire le roman, oui, il pourra être beau, il pourra être magnifique, est-ce que ce roman va-t-il influencer ma vie? Par contre, si je lis la parole de Dieu, si je la lis comme un journal, comme un roman, c'est un fait qu'elle m'apportera bien. Mais si je la lis en disant que c'est la parole de Dieu, cette parole va me communiquer la vie. Cette parole va transformer ma vie. Et c'est là toute la différence. Pourquoi le Seigneur prend-il l'image de la maison? Une maison symbolise bien souvent un abri, la protection. Ça peut symboliser aussi la famille. Ça peut symboliser la chaleur, le confort. En d'autres mots, la sécurité. Lorsqu'il fait mauvais, on est heureux d'être sous le toit d'une maison. Lorsque le temps est venteux, lorsque le temps est à la pluie, lorsqu'il fait très froid, on est heureux de se retrouver abrité dans une maison. C'est la sécurité. Nous voyons très bien quand les temps commencent à faire froid, les gens qui n'ont pas de maison, ce qu'on appelle habituellement les SDF, malheureusement, on voit combien grande est leur souffrance. On essaie de se blottir, on essaie peut-être avec des cartons, essayer de faire un abri pour se protéger au maximum, pour avoir le maximum de sécurité. La maison, c'est ce qui nous garantit la sécurité. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, la neige peut tomber, le froid peut être là, nous sommes malgré tout protégés. Et en prenant cette image de la maison, nous voyons que nous avons tous besoin de sécurité. Mais cette sécurité, ici, le Seigneur veut nous montrer que cette sécurité, c'est chacun, c'est personnellement chacun qui doit bâtir cette sécurité. C'est chacun pour soi. Et le Seigneur va nous montrer qu'il y a deux types de maisons. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Il n'y en a pas 36, il n'y a que deux types de maisons. C'est soit l'une, soit l'autre. Ces maisons peuvent avoir la même ressemblance. Elles ont peut-être les mêmes matériaux. Elles peuvent avoir la même apparence, mais malgré tout, il y a une différence. Cette différence n'est pas visible. Cette différence est cachée. Et cette différence est capitale. Ce n'est pas une différence qu'on pourrait dire, oui, on peut s'en passer. Non, elle est fondamentale. Elle est capitale. C'est que l'une de des maisons est bâtie sur le roc. L'autre est bâtie sur du sable. Toute la différence est là. La différence, c'est la fondation. Une maison est bâtie sur une fondation, l'autre n'a pas de fondation. Et c'est important. Je me souviens, lorsque j'étais gamin, on avait été rendre visite à un oncle, avec ma maman, on est resté une semaine là-bas en vacances, je devais avoir 7-8 ans, et mon oncle avait bien sûr sa maison, et il a voulu refaire une petite remise à côté de la maison. Et il s'était dit, puisque c'est une petite remise, je vais la faire comme ça, rapidement, sans fondation. Et ma maman lui dit, mais non, on ne bâtit jamais une maison sans fondation. Il dit, oui, je sais bien, mais bon, une petite remise, et puis voilà. Et en effet, il a construit sa petite remise, et je crois que 2 ans à peu près plus tard, on apprend que sa petite remise s'est écroulée. Il y a eu énormément de pluie, et bien sûr, la terre a été remuée et tout s'est écroulé. Et ma maman lui disait, qu'est-ce que je t'avais dit? Il faut toujours une fondation. Donc c'est quelque chose qui m'avait marqué en étant enfant. Nous connaissons la solidité de la pierre. Pour la casser, il faut utiliser soit une masse, soit un gros marteau. Utiliser des burins pour pouvoir casser la pierre. Pour pouvoir déplacer du sable, il ne faut rien. Il ne faut même pas parfois un outil. La main nue suffit pour déplacer le sable. Un rocher ne bouge pas malgré les tempêtes, malgré les pluies. Par contre, le sable, il est emporté par une petite brise. Une fois que l'eau s'écoule, on voit que le sable s'en va avec. Lorsque je marche dans le sable s'enfonce. Nous voyons très bien que c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. Nous avons ainsi donc d'une part la solidité et la stabilité d'un roc, et nous avons de l'autre côté la fragilité et la légèreté du sable d'autre part. Quelque chose d'immuable d'un côté, quelque chose d'éphémère de l'autre. Et à travers ces deux types de maisons, le Seigneur veut nous dire qu'il y a aussi deux sortes de personnes. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas 36. Il y a deux sortes de personnes dans la vie. Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a ceux qui ont fait le choix de creuser et de creuser encore pour atteindre le roc sur lequel ils ont bâti leur vie. Et d'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas voulu creuser et qui ont bâti directement sur le sable. Quelle est la personne qui a bâti sur le roc? La parole de Dieu nous le dit. Si nous lisons le passage que nous avons lu, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui a creusé, celui qui est parti chercher un fondement solide, c'est celui-là qui va bâtir sur le roc. Et le vent pourra souffler, les intempéries pourront venir, sa maison sera toujours debout. Celui qui n'a pas creusé, celui qui n'a pas cherché de fondement solide, c'est la personne qui va bâtir sur le sable. Verset 26. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, la différence n'est pas ici dans l'écoute, parce que tout le monde entend, tout le monde écoute. Même la personne insensée, il est dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, et la différence est sur le fait de mettre en pratique. Tout le monde entend, tout le monde va lire la Bible, mais c'est la suite qui est importante. Le fait de mettre en pratique. Tu ne mets pas en pratique, tu es considéré comme un insensé. Et encore ici, le mot est gentil, le mot original c'est fou. Tu es un fou. Si tu lis la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, tu es un fou. C'est ce que dit la Bible. Nous nous croyons parfois beaucoup plus sages que Dieu. Nous croyons beaucoup plus intelligents que Dieu. Nous croyons connaître les choses. Mais Dieu connaît. Parce que Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu connaît les pensées de l'homme. Nous ne savons pas où nous allons. Nous nous croyons parfois intelligents. Et nous conduisons d'autres personnes dans nos chemins. Nous sommes des aveugles conduisant d'autres aveugles. Et un aveugle qui conduit un autre aveugle, on finit par tomber dans le trou. Par contre, la parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions prendre le chemin qu'il nous faut. Et il ne suffit pas d'entendre, mais il nous faut creuser. Et creuser encore. C'est-à-dire mettre en pratique ce que nous avons entendu. De la théorie, nous passons à la pratique. À quoi servirait-il à quelqu'un qui veut apprendre à conduire un véhicule et qui va à l'auto-école, qui fait la théorie, et puis elle dit, c'est bon comme ça. Conduira jamais. Il faut qu'il passe par la pratique s'il veut conduire son auto. Sinon, son auto va rester dans le garage. Nous sommes parfois comme ça. Et c'est une folie. Quelqu'un qui va passer sa théorie, mais ne passe pas la pratique. On va dire, mais il n'est pas normal. C'est ce que nous faisons bien souvent. Nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu et nous nous contentons de cela. Non. La parole de Dieu, elle est toujours active. Le Seigneur nous dit, mes paroles ne reviennent pas à moi sans avoir accompli ses effets. La parole de Dieu doit toujours accomplir ses effets pour nous. Elle doit nous transformer, elle doit nous changer, elle doit nous rendre forts, elle doit nous rendre agréables au Seigneur. Sinon, c'est une parole morte. Mais la parole de Dieu est vivante. Si je me contente uniquement de la théorie, je cours un grand risque. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Cette maison qui s'est contentée de sable pour fondement Lorsque les intempéries sont arrivées, il nous est dit, elle est tombée. La maison est tombée et sa ruine a été grande. La ruine guette toute personne qui se contente uniquement d'entendre et ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne ici. La ruine nous guette, frères et sœurs. La ruine me guette tant que je me contente uniquement d'écouter ou de lire, sans mettre cela en pratique. C'est très difficile, parfois, d'accepter certaines choses de la parole de Dieu. C'est très dur, parfois, de franchir le pas. Il y a des choses qui nous sont insurmontables. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais y arriver à faire. Et vous savez, comme je le disais en commençant ce partage, Jésus vient d'enseigner les foules sur cette montagne. Et dans ses enseignements, Jésus va reprendre les paroles de Moïse, donc de la loi, qui étaient déjà contraignantes. Et quand Jésus va reprendre la loi de Moïse, il ne va pas la simplifier. Bien au contraire, il va la rendre encore beaucoup plus dure. On vous avait dit, Moïse avait dit, quelqu'un vous fait du mal, eh bien tout lui rend. Œil pour œil, dent pour dent. Ça nous arrangerait bien. Mais Jésus ici vient dire non. On te fait du mal, eh bien tu t'encores l'autre jour. Tu gardes ta main dans tes poches et tu t'en l'autre jour. On t'a dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu n'iras pas voir une autre personne que ton époux ou ton épouse. Mais moi je te dis, rien que le fait de la regarder et de vouloir, tu as commis un péché. Rien que la pensée, sans commettre l'acte, rien que la pensée, tu commets un péché. Jésus n'est pas venu simplifier les choses. Et Jésus, en disant cela, il vient nous dire, mets en pratique maintenant ce que je viens de dire. Et pas ce que Moïse a dit, mais ce que je viens de dire. La barre, elle est autre part. Alors, quand Jésus dit cela, que veut-il dire? Débrouillez-vous, allez-y maintenant. Les Israélites n'ont pas pu accomplir la loi de Dieu. Et Jésus vient pour l'endurcir. Et puis il dit, mettez en pratique. Est-ce que Jésus est-il aussi un insensé pour dire, vous n'avez pas su faire ce qu'on vous avait demandé, maintenant j'endurcis encore plus pour... Non. Quand Jésus nous dit de mettre la parole de Dieu en pratique, de mettre ses enseignements en pratique, il nous dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu par nos propres efforts, en disant, moi, je suis capable, moi, je ferai, Jésus veut tout simplement nous dire, mets ta propre justice de côté. Mets ta propre justice de côté. Tu es incapable. Maintenant, viens vers moi et je marcherai avec toi. C'est moi qui vais te porter. Là où tu tomberas, moi je vais te relever et tu marcheras avec moi. Je te porterai. C'est cela, mettre la parole de Dieu. Ce n'est pas en comptant sur ses propres efforts, en disant moi je ferai, moi je serai capable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsque Jésus va quitter ses disciples, il va leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Et pourtant, ils étaient si bien avec Jésus. Mais j'ai dit, non, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsque je vais vous l'envoyer, lui, il va vous fortifier. Lui, il va vous enseigner, il va vous faire comprendre la parole de Dieu. Lui, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Lui, il sera à côté de vous. Il va chaque fois vous aider. Alors, frères et sœurs, si je puis m'exprimer ainsi, le secret, il est tout simplement dans le Saint-Esprit. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit toujours, c'est la route de secours. C'est pas la route de secours, le Saint-Esprit. Il est à la base de notre vie spirituelle. Vous négligez le Saint-Esprit, c'est une ruine pour vous. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas comprendre la parole de Dieu. Vous savez, avec la parole de Dieu, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, je peux aujourd'hui créer une secte à partir d'un verset. Une incompréhension, on tord les Écritures. Et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Combien on voit des gens qui... Oui, ils ont des milliers de personnes qui les suivent. Ils tordent les Écritures et les gens aveuglés les suivent. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il va vous éclairer, il va vous dire, toi tu es un menteur. Tu n'es pas selon la parole de Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le jour de la Pentecôte qu'on va parler du Saint-Esprit. C'est tous les jours. Chaque matin, quand je me lève, le Saint-Esprit est là. Il doit me conduire, il doit me convaincre, il doit me diriger. Alors, frères et sœurs, si nous voulons mettre la parole de Dieu en pratique, si nous voulons construire, si nous voulons bâtir sur le roc, eh bien, tournons-nous vers le Saint-Esprit. Qui nous aide, qui nous guide, qui nous éclaire. C'est lui qui nous montrera comment faire le bon choix du mauvais choix. C'est lui qui vient me convaincre lorsque je fais mal les choses. Vous savez, aujourd'hui, même dans le monde chrétien, il n'y a plus de conscience. La parole de Dieu nous dit, il y en a qui ont la conscience obscurcie. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient me convaincre. C'est le Saint-Esprit qui me fait comprendre si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Mais on a tellement étouffé le Saint-Esprit, on l'a tellement cadenassé, on l'a emprisonné, alors on peut tout faire. Et on se dit chrétien. Et un jour, on sera devant le Seigneur, et un Seigneur, Seigneur, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez fait que des iniquités. On n'a pas été selon la parole de Dieu. On n'a pas bâti sa vie sur le roc. Le roc, c'est cela. Il faut creuser, il faut chercher, il faut aller plus loin en cherchant le Seigneur. Mon oncle, il a voulu vite fait, bien fait, être tranquille, ne pas trop transpirer. Il a fait sa petite cabale, mais il a été embarqué. Eh bien, c'est un peu ça, notre vie. Si nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais la grâce n'autorise pas tout. La grâce ne permet pas tout. Bien au contraire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur peut m'aider à bâtir ma vie sur le roc. Quel genre de maison est-ce que je veux bâtir? Sur le roc ou sur le sable? En sachant que la maison bâtie sur le roc tiendra jusqu'au bout. Tandis que la maison bâtie sur le sable va s'écrouler. Et ça sera une grande perte, une grande ruine. Le Seigneur nous laisse le choix, à nous, de le suivre, et à nous d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'il nous demande de faire. Tout est grâce dans la vie chrétienne. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, et si je parviens à faire quelque chose, c'est toujours par la grâce de Dieu. C'est toujours par la grâce de Dieu. Alors, implorons sa grâce pour que le Seigneur nous aide, pour que le Seigneur puisse vraiment nous accompagner dans ce que nous faisons pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen.
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 Nous allons prier. Après nous chanterons, Rédempteur du monde. Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi. Après avoir entendu encore cette parole, nous ne pouvons que nous incliner devant toi, Seigneur, notre Dieu, et demander ton aide. Demander l'aide de ton Esprit Saint que tu as fait habiter en nous, Seigneur, mais que nous négligeons si souvent, parfois. Nous te demandons, ô Père, de nous venir en aide et que nous soyons réveillés, que nous puissions, Seigneur, mettre cette parole en pratique en comptant sur toi. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors nous tournons vers toi. Viens-nous en aide, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et n'accomplissent pas ta volonté. Mais nous voulons être de ceux qui, lorsque tu nous commandes, nous accomplissons ce que tu as demandé. Merci, Seigneur, de renouveler en nous l'effusion du Saint-Esprit et de nous aider à marcher en accomplissant ta volonté. Amen.
Amen.
Voilà, nous chantons « Rédempteur du monde ».